Fleur de sel, l'hebdo de l'écologie intégrale, une émission qui parle de la sauvegarde de la maison commune.
Vous êtes le sel de la terre.
Fleur de sel, une émission pour répondre à l'appel du pape François à la conversion écologique.
Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ?
Fleur de sel, une émission proposée par le groupe Parole de chrétiens sur l'écologie. Avec cette semaine, Olivier Tempéro.
Mowgli est pris au piège. Trop tard pour fuir. Les dents de la hyène gigantesque qui lui fait face projettent des éclats de lumière dans la nuit. La bête s'avance lentement, pleine d'appétit. Sans trop y croire, dans un réflexe de survie, il se dresse nerveusement et pousse un hurlement désespéré. Au même instant, la hyène suspend son mouvement. Elle semble hésiter, elle jauge la situation. Imperceptiblement, elle semble se mettre à reculer. Oui, c'est bien ça. Elle bat en retraite. Étonné d'un tel effet, Mowgli pousse un soupir de soulagement. Entendant un grognement, il se retourne et peut ainsi comprendre la situation. Bagheera, son ami la panthère noire, arrivé derrière lui, suit de son regard féroce la fuite de la hyène. Seul, Mowgli n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais il n'était pas seul. Bienvenue dans Fleur de sel, chers auditeurs. Le sujet du jour tourne autour de l'utopie. Peut-on croire en la possibilité d'un autre monde ? La crise du coronavirus met plus que jamais le sujet sur la table et fait probablement évoluer notre vision des choses. La chronique du jour vient accompagner cette évolution et lui proposer de faire un pas de plus. Nous allons parcourir quelques objections habituelles des rationnels sur les utopistes, puis nous proposerons une attitude à adopter. Première objection. Hors du système actuel, l'histoire l'a montré, ça finit toujours en dictature. Mais si c'est une constante humaine, pourquoi le système actuel, miraculeusement, échapperait-il à cette dérive? Ne serait-ce pas plutôt le manque de contrôle, le fait de se croire arrivé et de relâcher la vigilance, qui laisserait le champ libre aux dérives du pouvoir? Deuxième objection, l'homme est tel qu'il est. On peut répondre à cette objection par la phrase du pape en Laudato Si 79, la passionnante et dramatique histoire humaine, capable de se convertir en un déploiement de libération, de croissance, de salut et d'amour, ou en un chemin de décadence et de destruction mutuelle. Si l'homme est tel qu'il est aujourd'hui, apparemment figé dans sa réalité, c'est que le système dans lequel il évolue ne stimule qu'un des deux ressorts fondamentaux. Celui de l'égoïsme, de l'accumulation, de l'accélération, de la compétition, de l'image, au détriment de celui de l'altruisme ou de la profondeur. Alors forcément, ce dernier s'atrophie, au point qu'on le prend pour substantiellement inexistant ou au moins inopérant. Mais cela ouvre des perspectives. Dans un système tout autre, avec des structures tout autres, l'homme se montrerait sous un jour tout autre. Alors évidemment, je prête ici le flanc à la troisième objection. Le système est figé. Car c'est bien joli tout ça, mais les structures, si elles sont mauvaises, elles sont aussi extrêmement puissantes. Puissantes car elles sont en place, et puissantes car elles reposent sur les penchants naturels redoutables dont on a parlé plus haut. Les défis sont immenses. Qui plus est, comme le rappelle le pape avec sa formule « tout est lié », ces défis de notre temps sont profondément imbriqués les uns dans les autres. On doit les attaquer comme un tout. Comment, dans ces conditions, irait-on vers autre chose? On entend souvent les objections suivantes. Ça va créer du chômage. Quel gouvernement serait assez fou pour se lancer? Eh bien, peut-être qu'on y sera aidé, et je mets des guillemets au mot aidé. Tchernobyl, le 11 septembre 2001. Les terribles incendies au Brésil et en Australie, et maintenant le coronavirus. L'illusion de continuité, certes émoussée par les événements de ces derniers mois, risque bien de voler en éclats. le modèle actuel ne peut pas se perpétuer à l'infini. Il ne peut pas ne pas y avoir de changement. Dans le conte introductif, les efforts de Mowgli auraient probablement été insuffisants pour faire fuir la hyène. Mais Bagheera était là, et elle s'est montrée déterminante. De même, si l'homme est probablement incapable d'être à l'origine du changement, il n'en est pas le seul acteur. Nos efforts humains sont probablement insuffisants, mais sans parler de punition divine, les conséquences de nos errements, qui nous reviennent comme un boomerang, formeront probablement des facteurs de bouleversement inéluctables. D'autres systèmes naîtront alors spontanément, comme les rejets d'un arbre dont le tronc a été coupé. De même que ces rejets n'ont pas à s'intégrer à la structure de l'arbre, puisque ce dernier n'est plus au moment où il pousse, il n'y a pas besoin d'imaginer ce nouveau système à partir de la situation actuelle, puisqu'elle ne sera plus. Cette comparaison est probablement excessive. On ne fait jamais table rase du passé, et l'arbre ne sera pas entièrement coupé. Mais l'idée est que si notre imagination est dépassée et stérile, la nature, elle, saura trouver son chemin sans s'encombrer de nos « mais voyons, c'est impossible ». Ainsi donc, inutile de se demander comment, concrètement, on va pouvoir s'autodiscipliner pour passer de l'actuel figé au souhaitable hors de portée. Et la réponse que l'on adopte souvent qui est « puisqu'il n'y a pas d'alternative à la marche en avant, continuons à marcher », cette réponse gagne à être remplacée par « anticipons, dès maintenant, la coupe, œuvrons pour que l'arbre retrouve une base plus saine et soit coupé le moins bas possible, et préparons-nous à guider de manière inspirée les rejets à venir ». Tout cela nous mène à notre dernière question du jour. Si cela vient de l'extérieur, pourquoi et comment agir ? Sur le pourquoi agir, je vous propose de réentendre la phrase du pape François en 160 de Laudato Si. Pourquoi passons-nous en ce monde ? Pourquoi venons-nous à cette vie ? Pourquoi travaillons-nous et luttons-nous ? Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. C'est un drame pour nous-mêmes, continue le pape, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Pour ce qui est du comment agir, même si nous ne serons peut-être pas les principaux déclencheurs des changements à venir, nous pouvons nous y préparer pour les accompagner et les orienter. Nous pouvons parcourir les quelques millénaires de notre développement et les nombreuses spécificités anthropologiques pour esquisser des structures plus résilientes. Nous pouvons nous détacher de nos mythes fondateurs modernes et en façonner de nouveaux. Nous pouvons, plus concrètement, affirmer que toutes les manières de vivre ne se valent pas. Affirmer que les manières de vivre dont il nous est fait l'article dans l'Occident du XXIe siècle, elles ne sont globalement pas bonnes. Témoigner qu'on croit discerner les formes fuyantes, mais réelles, d'une manière de bien vivre, qui découlerait, pour nous chrétiens, de l'Évangile. Essayer de s'en approcher chaque jour avec pour validation la joie qu'elle procure. Et dire que ce bien-vivre, on présuppose également qu'il peut s'étendre à grande échelle, qu'on doit pouvoir le poser à l'horizon de l'humanité, comme un phare, un but vers lequel tout orienter. Et qui sait, peut-être que, à œuvrer ainsi, nous allons nous surprendre à changer le monde sans que la nature nous y contraigne. En tout cas, tout ça, on peut le faire. Et en plus d'être l'honnête contribution d'un pauvre gardien de la création qui se rappelle subitement de sa mission, tout ça, c'est bon pour nous-mêmes. Parce que la large porte qui mène à la perdition dont nous parle saint Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14, elle n'est pas la seule porte. Celle qui mène à la vie est plus étroite, certes, mais elle est bien réelle et elle offre une belle cohérence. Ce genre de chronique ne se conclut pas. J'ajoute dans le podcast quelques merveilleux extraits de Bernanos sur le sujet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Arnaud essaiera de tirer quelques enseignements du confinement récent. À ne pas rater, chers auditeurs.